La une ce matin, c'est ce bras de fer statutaire à l'hôpital entre les médecins et la FISAP. On parlera d'économie aussi avec les prix à la pompe qui augmentent dès aujourd'hui. Et enfin, cette conférence ouverte à tous pour mieux aider les femmes victimes de violences. Journal de la rédaction présenté par Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Après l'alerte des médecins, la FISAP dit avoir appris que le statut des patients hospitaliers serait réformé en priorité.
Et ça ne plaît pas du tout au syndicat de Mireille Duval. Selon la chef de file de la FISAP, le syndicat a rencontré la ministre du Travail et de la Fonction publique, Vanina Crolla, en fin de semaine dernière. Et c'est là qu'ils ont appris que les révisions statutaires des petites catégories attendront, je cite, peut-être 2 ans que les médecins étaient prioritaires. Le syndicat dénonce une rupture d'égalité entre le personnel hospitalier, estimant les médecins privilégiés par rapport aux autres catégories.
Parce que les médecins mettent la pression, parce que les médecins ils disent que s'ils s'arrêtent, il n'y a plus d'hôpital. Mais nous aussi, on va dire, ben, si nous on s'arrête, il n'y a que des médecins, il faut comment vous travaillez. On a un sentiment qu'il y a 2 classes ici. Hein. Et bien nous, on en a marre hein, qu'on nous traite comme ça. Je parle au nom des agents. Il y a un système à 2 vitesses. La souplesse, elle est réservée à une élite. La rigidité, elle est imposée au personnel d'exécution. C'est ça qu'on perçoit. Hein. Ça va faire depuis 2015 qu'on demande tout ça. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien. Et on apprend qu'on n'aura encore rien et qu'il faut attendre 2 ans. Mais dans 2 ans, c'est un nouveau gouvernement. Ils vont faire quoi?
Voilà, un système à 2 vitesses, dénonce Mireille Duval, qui s'inquiète que rien ne change pour les catégories D avant longtemps et prévient que si l'hôpital ne peut pas tourner sans médecin, il ne peut pas tourner non plus sans les auxiliaires de santé.
Vous savez, je disais dernièrement à la ministre de la Fonction publique territoriale, il y a 3 choses sur lesquelles on manipule bien. On est dans le phare et la patience, phare le respect, phare l'humilité. Il faut arrêter de nous prendre comme ça, hein, de nous considérer comme ça, parce qu'ils savent que même si on râle, on sera toujours là. Eux, par contre, hein, ils font de la pression, et quand ils ne sont pas là, ben, bien sûr qu'ils vont nous foutre dans la merde, parce que quand il n'y a pas de médecin, il n'y a plus d'hôpital. Mais nous aussi, on sait le faire, on prépare.
Voilà. Voilà, Mireille Duval, très en colère hier et donc en préparation d'un préavis de grève. Il pourrait être déposé dès aujourd'hui. Côté gouvernement, on explique que la réforme du statut des auxiliaires de santé des îles est prête. Son étude a été décalée de quelques semaines pour faire passer dans le temps le projet de réforme du statut des praticiens hospitaliers. Les 2 textes sont qualifiés de prioritaires par l'exécutif et pas seulement celui qui concerne le médecin.
Et alors que la FISAP s'agace, le Conseil de l'Ordre des médecins, lui, soutient la demande des praticiens hospitaliers.
Il partage le malaise, les inquiétudes et les demandes des praticiens hospitaliers sur la crise de recrutement de médecins publics. Pour le Conseil de l'Ordre, l'enjeu dépasse largement le cadre hospitalier et interroge sur l'avenir même du système de santé. Il appelle à des réformes de fond, des discussions sont engagées avec le pays. Il s'agit désormais de dépasser les clivages institutionnels pour les faire aboutir.
À 7h03 dans ce journal, on parle d'économie maintenant, Lucie, avec cette croissance de 1,2% en 2025, d'après les premières estimations établies dans le cadre du Sérum.
Le Sérum, c'est l'ISPF, l'IEOM et l'AFD qui mettent en commun leurs statistiques et leurs moyens pour établir des comptes économiques rapides. Hier, ils ont donné leur estimation du produit intérieur brut de la Polynésie, 729 milliards de francs en 2025, une croissance donc de 1,2% par rapport à 2024. Une croissance principalement soutenue par la demande extérieure, une belle année pour la perle, une belle année pour le tourisme, comme l'explique Julien Vuchet-Vizin de l'ISPF.
Oui, mais là on a eu quand même une belle année parce que les 2 produits phares, qui sont le tourisme et la perle, ont augmenté de concert. Alors que les autres années, on avait un effet à chaque fois, c'était ou l'un ou l'autre. Et donc ça venait pénaliser quand même une partie de la croissance. Et là, c'est vrai que cette année 2025, tous les feux sont orientés dans le même sens. Donc ça, ça a permis un rebond significatif des exportations de biens et de services. Mais c'est un fait qui reste une croissance portée par la demande extérieure, reste un épiphénomène dans l'économie polynésienne. Ça a dû s'observer 3 fois sur les 10 dernières années.
Et la consommation intérieure, moteur traditionnel de la croissance, est-elle en perte de dynamisme et en quasi-stagnation du côté privé? Le secteur public, de son côté, continue de soutenir l'économie grâce à ses dépenses de fonctionnement. Et désormais, les spécialistes de la statistique pensent à 2026 et s'inquiètent de résultats en retrait côté tourisme depuis le début de l'année, alors que l'inflation mondiale finira par toucher le Fénois. Le directeur de l'ISPF, Hugues Horatius Clovis, au micro de Charlie René.
Sur les 4 premiers mois de l'année 2026, l'inflation est quasi nulle en Polynésie française, alors que dans la zone euro et dans l'Hexagone, elle est plutôt autour de 2%. Donc, il y a des chances pour que qu'il y ait dans les mois à venir de l'inflation importée, mais ça sera l'observation des prix menés par l'ISPF tout au long de l'année qui permettra de le mesurer.
Et justement, on avait été jusque-là épargné par la hausse des carburants, mais c'est fini, les prix à la pompe augmentent dès aujourd'hui.
Une hausse inévitable pour le gouvernement. Réuni en Conseil des ministres extraordinaire hier, l'exécutif a acté une augmentation de 15 francs du litre d'essence et de gazole à la pompe, plus 10% donc dès aujourd'hui. Le fragile accord cadre signé entre les États-Unis et l'Iran a quelque peu calmé les cours pétroliers, mais les conséquences du conflit au Moyen-Orient ne font que commencer. Pour le Fénoua, délai de livraison, intervention massive de la puissance publique avec les 3,5 milliards de francs injectés dans le FRPH. Tout ça a permis de maintenir les prix à la pompe jusqu'à aujourd'hui, mais c'est fini. Une hausse qui, selon le ministère des Finances, aurait pu être beaucoup plus brutale si le pays avait voulu coller à la réalité des prix d'achat des carburants. Mais l'exécutif veut continuer à amortir l'impact. Un projet de loi neutralisant les taxes pétrolières pour 6 mois a été transmis à l'Assemblée. Warren Dexter l'a présenté en commission de l'économie. On l'écoute.
Les taxes, elles conduisent à surenchérir le prix du carburant. Vous savez, quand le carburant arrive, c'est la valeur CAF de l'importateur. Ensuite, vous avez ces droits et taxes qui s'appliquent. Ensuite, vous avez la régulation en fonction du prix du baril. Vous avez les prestations locales et puis les marges des détaillants. Et donc, si on supprime ce poste qui est en deuxième position des taxes, ça veut dire qu'on a beaucoup moins à financer en termes de remboursement aux importateurs. Donc, ça marche aussi.
Des outils très coûteux pour les finances publiques, un manque à gagner fiscal de 3,8 milliards, mais pour l'exécutif, il faut adoucir le choc pour les ménages et l'économie.
Vous écoutez le journal de la rédaction. L'actualité, c'est aussi cette conférence sur le contrôle coercitif qui se déroulera ce soir à l'amphithéâtre du Taonnet.
La première présidente de la cour d'appel de Papeete, Gwenola Jolie-Cause, et maître Guillaume Barbe, avocat au barreau de Paris et membre du Grévio, le groupe d'experts indépendants sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Ces deux experts détailleront les mécanismes de l'agresseur pour priver sa victime de liberté, de ses ressources et de toute capacité d'agir, ce qu'on appelle le contrôle coercitif. Cette conférence s'adresse plus particulièrement aux professionnels de la santé, du secteur social, de l'éducation, de la justice ainsi qu'aux forces de l'ordre pour qu'ils identifient mieux ces mécanismes. Comme l'explique la directrice de l'ICPF, également docteur gynécologue, Teanini Temata Hotoa, au micro d'Alexandra Perini.
Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que en fait, que ça soit prévu en fait aux femmes ou aux enfants, les gens en parlaient, les femmes ont parlé, elles l'ont quelque part un peu verbalisé. Mais là où des fois le système pêche, c'est que les professionnels soit l'identifient pas comme tel, ou ne savent pas quoi en faire, ou ne savent pas vers qui adresser. Et donc après, ça fait des victimes qui finalement se disent « bon, j'ai parlé, il ne s'est rien passé ». Et donc du coup, elles ne reparlent plus, ou comme je disais, elles se sentent abandonnées.
Voilà, il faut absolument ne plus arriver à ces situations, savoir détecter les signes, avoir la force d'agir pour accompagner ces femmes victimes de violences, mais aussi savoir prendre en charge les enfants qui y sont confrontés, et puis mettre des mots sur ce que ces familles vivent.
Sur le contrôle coercitif, on va dire que c'est une notion qui est assez nouvelle, qui est une pratique malheureusement ancienne dans le cas des violences conjugales, mais qu'elle soit intellectualisée, formalisée par le milieu de la justice, c'est important. Parce qu'en fait, ce n'est plus forcément aux femmes de démontrer la notion d'emprise ou ce que fait l'homme sur elles, mais vraiment de mettre la lumière sur l'action des hommes sur les femmes, et donc notamment cette notion de contrôle coercitif.
Cette conférence donc pour les professionnels et plus pour les professionnels, mais elle est également ouverte au grand public. C'est à partir de 16h à l'hôpital. L'entrée est libre et gratuite.
Au Brésil à présent, la 6e étape du CT est en stand-by.
Et oui, il faudra donc patienter avant de voir la finale avec Tia Zebrowski. La Vivo Rio Pro a été une révélation pour la rookie de 15 ans. Elle a battu plusieurs championnes du monde pour arriver jusqu'en haut du tableau. Prochain call pour la compétition la nuit prochaine, heure de Tahiti.
Et il y avait encore des VIP à l'aéroport hier soir.
Oui, après Hino Poco Devez et Camille Serre, c'est la mannequin Adriana Carambeu et le chanteur Marc Lavoine qui sont arrivés. Venir à Tahiti était un rêve pour sa fille et son compagnon, raconte Adriana Carambeu, qui dit accompagner les rêveurs, mais surtout le couple devra noter les candidates de Miss Tahiti. Lors de la soirée d'élection vendredi, un privilège, explique-t-elle, mais aussi beaucoup de responsabilités.
C'est pas juste un petit événement, il faut aussi comprendre que le destin de cette jeune fille qui va être élue va définitivement changer. C'est vraiment une jolie ouverture, la porte s'ouvre pour cette personne, elle va pouvoir mettre en valeur ses projets, ses ambitions, et donc c'est important. On le fait avec beaucoup de responsabilité, on est très sympa.
Voilà, elle assure qu'ils vont travailler et attendent un joli événement. La mannequin dit aussi admirer particulièrement les Polynésiennes, écoutez.
La beauté de la femme, et ici les femmes portent cette beauté avec une fierté culturelle que j'aime beaucoup.
Et si vous voulez voir cette arrivée en photo, elles sont sur notre site radio1.pf. Et puis à noter que nous recevrons Edouard Fritsch ce matin. Le président du Tapoura, représentant à l'Assemblée, maire de Pirée, répondra à nos questions sur sa candidature au sénatorial aux côtés de Lana Tetouanoui, sur la situation politique, économique et sociale du pays, sur la préparation du camp autonomiste pour les territoriales. Ce sera à suivre à partir de 11h30 sur nos antennes et en live Facebook sur Radio 1 et Tiaré FM. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 7h30 pour la revue de presse.
Merci beaucoup Lucie et à tout à l'heure.